Bonjour à tous. Comme chaque semaine, nous nous retrouvons dans les locaux de Radio Accor pour l'émission Rencontre. Et nous sommes en partenariat avec l'association des Amis du Chemin de Saint-Jacques en Vienne.
Tous les matins, nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle.
Aujourd'hui, notre invitée est Françoise. Bonjour Françoise.
Bonjour Claude.
Alors, Françoise va nous parler de l'histoire des chemins, ou du chemin plus exactement, avec un grand C, du chemin de Compostelle. Et Françoise, qui êtes-vous? Quelle est votre spécialité? Que faites-vous?
Alors, je m'appelle Françoise et je suis retraitée de l'enseignement. J'étais professeure d'histoire-géographie.
Alors voilà un sujet et une fonction qui tombent très bien. Vous avez fait le chemin, bien sûr.
Oui, j'ai fait le chemin. J'y suis allée 3 fois. Une fois en partant de chez moi, donc de Poitiers jusqu'à Saint-Jacques. Une autre fois du Puy-en-Velay. Et enfin, j'ai fait le chemin du Nord et le chemin dit primitif.
Très bien. Mais vous étiez seule, en groupe? Comment
non,
ça se passait?
Non, j'étais avec mon mari, avec Jean-Louis, et nous avons fait le chemin ensemble.
Chaque fois?
Chaque fois, à l'automne, voilà.
Et à l'automne, oui, certainement une très belle période. Bien. Et alors maintenant, vous allez nous parler de l'histoire de ce chemin depuis le début, sans doute une très longue histoire.
Une très longue histoire, oui. Ce chemin qui va prendre de l'importance, ce pèlerinage qui va en quelque sorte presque concurrencer les 2 grands pèlerinages de la chrétienté, c'est-à-dire évidemment Rome et Jérusalem.
Et le début du pèlerinage de Saint-Jacques se confond bien entendu avec le début de l'ère chrétienne.
Oui.
Comment ça commence?
Ça commence avec l'apôtre Jacques. Il s'agit de Jacques le Majeur, un des premiers apôtres qui ont répondu à l'appel du Christ. Et tout commence après la mort du Christ, lorsque les apôtres se partagent l'évangélisation du monde. Donc à Jacques revient l'évangélisation de l'Hispanie. Il va s'y attacher pendant environ 8 ans, avec plus ou moins de bonheur. Puis il retourne en Palestine, mais là il est jalousé en quelque sorte par les Juifs. Et finalement le roi Agrippa Ier, le roi des Juifs sous l'autorité de Rome, le met à mort. Il sera décapité en 44.
C'est un de nos premiers martyrs.
C'est un de nos premiers martyrs. Et après, la légende s'en mêle, puisque son corps est jeté au-delà des remparts de Jérusalem, et ses disciples vont pieusement recueillir ce corps, le mettre dans une barque en pierre, pourquoi pas. Et cette barque va traverser la Méditerranée jusqu'au détroit de Gibraltar, puis va remonter les côtes ibériques jusqu'en Galice. Et c'est là qu'il est enterré et ses disciples l'y rejoindront.
Bien entendu, c'est la légende dorée, mais on s'y accroche quand même. On a bien trouvé quelque chose qui faisait que, au moins, les chrétiens étaient au 1er siècle en Galice.
Oui, on a effectivement des preuves de cette présence chrétienne. Et Saint-Jacques va tomber dans l'oubli pendant donc très très longtemps. Et c'est au tout début du 9e siècle qu'un ermite, alors là aussi l'histoire, la légende se mêle, un ermite, Pélage, a une vision. Et cette vision lui indique de suivre une étoile qu'il mènera vers le tombeau de Saint-Jacques. Il en parle donc à son évêque, Théodomir, et tous les deux trouvent ce tombeau, en tout cas un tombeau chrétien, avec la présence de 3 corps. Et l'Église va authentifier très vite ce tombeau comme étant celui de Saint-Jacques.
Donc nous avons les restes de Saint-Jacques qui se trouvent au champ de l'étoile.
Alors les restes ou pas les restes de Saint-Jacques, ça c'est difficile à déterminer.
Mais la foi nous départage.
Voilà. Donc, cette découverte est à l'origine d'un culte tout à fait extraordinaire.
Et ce culte va se développer, bien entendu, mais j'aimerais qu'on voit le contexte dans lequel il va se développer, c'est-à-dire le contexte historique et religieux de ce 9e et 10e siècle.
Oui, alors le contexte est évidemment très très important, puisque nous sommes en pleine expansion musulmane, aussi bien au Moyen-Orient qu'en Afrique du Nord, et puis qu'en Europe, puisque tout le monde a en mémoire 732 à Poitiers, et on voit que cette conquête musulmane est à l'origine de très nombreux conflits avec les chrétiens. Alors ces conflits, on va les trouver à la fois au Moyen-Orient, puisqu'il y a une lutte de propriété, en quelque sorte, qui se fait autour de Jérusalem, où se situe le tombeau du Christ,
oui.
Mais en même temps, Jérusalem est une ville sainte pour les musulmans.
Bien sûr, on le sait.
Donc cette ville va être prise, reprise entre les Arabes et puis les chrétiens. Et cela rend le pèlerinage à Jérusalem presque impossible parce que la sécurité n'est absolument pas assurée.
Et donc en balance, les pèlerins vont se lancer vers l'ouest et vers Saint-Jacques.
Alors, pas immédiatement, bien sûr, puisqu'il faut quand même connaître aussi le contexte de l'Espagne. L'Espagne est aux trois quarts occupée par les musulmans, où s'installe un royaume très célèbre qui s'appelle Al-Andalus, avec sa capitale de Cordoue. Et d'ailleurs, c'est un royaume qui va devenir très civilisé, très, très intéressant. Néanmoins, les royaumes chrétiens se sentent en difficulté et il y aura de nombreux conflits en Espagne entre les chrétiens et les musulmans. Et pour illustrer ces conflits, nous pouvons parler de deux batailles assez remarquables. Il y en a une où aussi la légende se mêle à l'histoire. C'est la première bataille, c'est celle de 844, qui oppose un roi des Asturies avec les musulmans, le grand émir Abdelrahman II. Et les chrétiens, à ce moment-là, sont tout à fait en difficulté. Lorsque apparaît dans le ciel un magnifique cavalier sur un cheval blanc, et c'est Saint-Jacques qui va mettre en déroute les musulmans, et grâce à lui, les chrétiens obtiennent la victoire.
Bien entendu.
Voilà.
Ça, c'est également la légende, mais ça montre surtout le poids, certainement le poids de Saint-Jacques dans le nord de l'Espagne.
Voilà,
Saint-Jacques. Et l'intérêt qu'on avait à avoir une présence chrétienne face à l'islam.
Voilà, Saint-Jacques va devenir Saint-Jacques le Matamor, ce qui en clair signifie le tueur de mort, et il devient un patron de l'Espagne. C'est une sorte de...
Oui, Santiago, le saint
patron
de l'Espagne.
Alors Santiago, c'est effectivement en espagnol, c'est San Iago, c'est-à-dire Saint-Jacques.
Eh bien, nous voyons à peu près bien ce contexte dans lequel se développe notre pèlerinage.
Voilà, alors la deuxième bataille, quand même, je termine avec ça. En 997, le grand émir Al-Mansour, ce qui veut dire le victorieux, rase la ville de Saint-Jacques de Compostelle et réduit en esclavage tous ses habitants. Et c'est à ce moment-là, effectivement, que, après toutes ces batailles, enfin, on en a donné. Alors, ça, c'est parfaitement historique, hein, c'est reconnu par les documents.
Alors ça non, on n'en doute pas.
Voilà, et à ce moment-là, la chrétienté se dit qu'il faut réagir, et ce sera ce qu'on va appeler la Reconquista, donc la reconquête sur l'Espagne sur les musulmans en Espagne qui va commencer.
Alors, il y a quand même l'influence maintenant du monde religieux, en particulier les bénédictins de Cluny qui vont organiser, encourager le pèlerinage.
Oui, alors on ne peut pas effectivement parler de la reconquête sans parler de cette grande abbaye de Cluny, qui est plus connue pour sa volonté de réforme monastique. Elle s'est fait connaître d'abord comme cela. Mais effectivement, cette abbaye bénédictine, en accord avec la papauté, il faut savoir que de nombreux moines de Cluny sont devenus papes après, cette abbaye va soutenir la reconquête sur les musulmans et en même temps organise un grand courant de pèlerinage vers l'ouest, ce qui est une façon de revitaliser les pèlerinages vers la chrétienté occidentale.
Alors, l'Église encourage les pèlerinages à ce moment-là.
Alors oui,
elle les soutient.
L'Église encourage les pèlerinages et c'est tout à fait parallèle à l'encouragement de la lutte militaire contre les musulmans. Donc je peux dire que Cluny met en œuvre trois moyens essentiels pour lutter contre les musulmans. Alors évidemment, la première action, c'est l'action militaire. Elle encourage les chevaliers chrétiens à prendre les armes contre ceux qu'on appelle les Maures ou bien les Sarrasins. Et beaucoup de chevaliers vont répondre à cet appel. On ne peut pas s'empêcher de penser à l'Aquitaine, puisqu'un comte d'Aquitaine, Guillaume VIII, part en 1063 avec de nombreux chevaliers du Poitou, mais aussi au-delà, à l'appel du comte de Barcelone, Raymond Béranger, qui est en difficulté, et ils vont remporter une grande victoire, la victoire de Barbastro, ça se trouve près de Saragosse, et c'est d'autant plus notable que ça se passe avant la première grande croisade qui va donc s'organiser pour défendre Jérusalem.
Donc, et les lieux importance saints. Militaire.
Ensuite. Importance militaire, puis dans le monde oui. chrétien, enfin voilà. Alors, la deuxième action, c'est l'action politique et économique. Ces royaumes chrétiens ont absolument besoin d'être renforcés, et ne serait-ce que renforcés sur le plan démographique. Et ces royaumes vont faire venir chez eux toute une population d'artisans, de commerçants, qui vont s'installer dans les villes espagnoles pour mieux les renforcer.
Qui vont donner une vie particulière avec toujours l'idée du pèlerinage, l'idée du soutien aux pèlerins,
ça va ensemble, c'est-à-dire que ces artisans, eux, on les encourage à faire souche dans ces royaumes, et ceci en leur accordant des privilèges, ce qu'on appelle en Espagne les fueros. On trouve des quartiers français, enfin ce sont des faubourgs qui s'organisent autour des villes, dont on a les traces encore aujourd'hui, et artisans sont dispensés, par exemple, de services militaires ou de...
Ça devait créer quelques inimitiés entre les autochtones, disons, voilà. Et puis ces francs et ces descendants de francs.
Ou d'impôts,
oui.
etc.
Oui, je vois ça. Bon. Alors, bon, nous avons ce contexte. Les grands itinéraires pour
Alors,
aller
aussi,
à Compostelle.
Alors aussi, la troisième, j'en termine quand même avec mon propos, puisqu'il y avait trois moyens. Le troisième, c'est le développement du pèlerinage.
Et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé.
Cluny a organisé de très nombreuses filiales, dont le nombre contribue aussi au renforcement économique des États, sans compter les influences culturelles et artistiques qui vont se développer entre la France et l'Espagne. Alors, le développement du pèlerinage, en effet, à travers toute la chrétienté, des pèlerins viennent de tous les pays d'Europe et ils convergent vers Compostelle par des chemins qui forment un réseau de plus en plus serré. Et partout, nous voyons sur ces itinéraires des villes, des villages qui se fondent, des églises, des chapelles, des hôpitaux. Et il faut penser que c'est le grand triomphe de l'art roman. Avec des influences réciproques entre les régions, et les autorités aussi bien civiles que religieuses aident le pèlerin,
favorisent le pèlerinage,
sa sécurité.
Oui. Voilà. La sécurité aussi. Les grands sanctuaires, on a le Puy-en-Velay qui est bien connu, bien entendu.
Alors les itinéraires.
Saint-Martin à Tours aussi. Et alors ?
Oui, alors effectivement, le pèlerin. Vénère beaucoup les reliques au Moyen-Âge, c'est une chose qu'il souhaite faire, et il va, à travers quatre grands itinéraires, faire en quelque sorte des arrêts auprès des reliques des saints. Les quatre grands itinéraires sont le chemin de Tours, le chemin de Vézelay, le chemin du Puy-en-Velay et le chemin d'Arles.
Ces quatre grands itinéraires
vont se retrouver dans une ville espagnole qu'on appelle Puente la Reina. Et donc, Emery Picot, le guide, le premier auteur d'un guide pèlerin du XIIe siècle, incite les pèlerins à s'arrêter auprès des sanctuaires. Les plus célèbres sont celui de Saint-Martin à Tours. Nous avons évidemment Saint-Hilaire à Poitiers, mais aussi Saint-Martial à Limoges, Sainte-Foy à Conques.
Et que dit Aimery Picot ? On a les textes de ces...
Oui, alors Aimery Picot, qui est poitevin, et on s'en aperçoit par quelques textes qu'il écrit sur les poitevins, des gens vigoureux, bons guerriers, habiles au maniement des arcs, des flèches, très rapides à la course, élégants dans leur façon de se vêtir, alors que les Gascons sont légers en parole, bavards, moqueurs, débauchés, etc.
Oh, il écrit ça, Aimery Picot ?
Oui, oui, il a une petite faiblesse pour les poitevins dont il fait partie.
Ben bien sûr. Mais voilà. On peut penser que ça a été le premier écrivain ou le premier qui a décrit les régions traversées, les endroits où s'arrêter, en mettant une note à chaque région.
À chaque région, même s'il a quelquefois quelques préjugés.
Alors, les pèlerins s'en vont, ils quittent leur domicile.
Oui, alors les pèlerins...
Leur motivation, parlez-nous de ça.
Oui, alors il faut savoir que si quelques pèlerins sont de la classe aristocratique, des évêques, des ducs, des comtes, comme par exemple Guillaume X, duc d'Aquitaine, qui est venu à Compostelle en 1137 et qui est mort malheureusement 8 jours avant d'arriver, mais aussi le roi Louis VII... Là, si il y a ainsi des gens très importants, la plupart des pèlerins sont des anonymes qui partent à pied de chez eux après la bénédiction de l'évêque, après avoir pris les dispositions pour leur famille. Leurs motivations sont essentiellement religieuses. Ils cherchent à obtenir une faveur, une guérison. Ils veulent vénérer les reliques, comme on l'a vu. Quelquefois, ils partent à la suite d'un jugement ecclésiastique. Lorsqu'ils sont condamnés, on les oblige à faire ce pèlerinage, ou encore ils y vont à la place d'un noble qui veut faire le pèlerinage mais qui préfère en charger quelqu'un d'autre.
Eh bien, vous êtes sur Radio Accor, nous écoutons dans cette émission Rencontre, et nous écoutons Françoise qui nous parle de l'histoire des chemins de Compostelle, émission qui est faite en partenariat avec l'association des Amis des Chemins de Saint-Jacques en Vienne. Bon, Françoise, nous reprenons le cours de notre conversation. Bon, après toute l'apogée dont nous avons parlé, il y a le déclin, bien entendu. Alors, le déclin et l'oubli. Le déclin du pèlerinage...
Oui, on n'a pas parlé l'oubli. Ah oui. Oui, parce que les pèlerins, il faut quand même dire un tout petit mot du pèlerin qui... Donc, on imagine le pèlerin du Moyen-Âge avec sa pèlerine, son chapeau. Il encourt énormément de risques, maladies, les brigands, les passages à gué, il prend des risques. Et partout, je voudrais quand même dire qu'il est hébergé par tous les ordres hospitaliers, par les filiales de Cluny. Et donc, à la fois, on lui apporte une aide matérielle et une aide spirituelle. Et lorsque, après tant de kilomètres, il arrive à Santiago, près de Santiago, le pèlerin nous dit « Nous ne pouvions prononcer aucune parole à cause de l'abondance des larmes qui sortaient de nos yeux. » Donc, c'est toute l'émotion de l'arrivée pour le pèlerin du Moyen-Âge qui a affronté de grosses difficultés.
Et alors, le déclin, puisqu'il y a déclin.
Oui, il y a un déclin à partir du XIVe siècle, à cause des guerres, oui. Et puis à cause, sur le plan intellectuel aussi, de la réforme et de l'humanisme qui condamne, au fond, les reliques, enfin la vénération des reliques comme étant de la superstition.
Tout à fait. Et aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, il y a une reprise de ce pèlerinage, surtout dans la deuxième moitié du XXe siècle, qui s'explique à la fois par l'intervention de l'Église qui a remis en honneur les pèlerinages avec les années saintes et aussi parce que dans ce monde assez matérialiste et bruyant, il y a aussi une recherche pour chacun de quête d'absolu, de spiritualité. Et les gens recherchent au fond ce silence, la marche leur permet de se retrouver. Et aussi, il y a une troisième raison qu'on pourrait appeler culturelle, puisque, par exemple, le Conseil de l'Europe a reconnu l'importance de ce chemin de Saint-Jacques comme étant le premier itinéraire culturel européen en 87. Et en 94, l'UNESCO a inscrit ce chemin au patrimoine mondial de l'humanité.
On pourrait faire un rapprochement peut-être osé en disant que l'UNESCO et le Conseil européen sont le Cluny du XIIe siècle vis-à-vis du pèlerinage.
Alors,
une aide.
Oui,
une reconnaissance.
Une reconnaissance, oui.
Bien. Et là, ce renouveau, vous dites, beaucoup de monde passe, beaucoup, beaucoup.
Alors, énormément de personnes arrivent ici. Et on peut considérer que c'est en augmentation extraordinaire. Si on pense qu'en 1971, il n'y avait que 450 pèlerins à Santiago, et qu'en 2007, il y en avait 144 000, à Saint-Jean-Pied-de-Port également, on voit des chiffres monter d'une façon vertigineuse. Et surtout, pendant les années saintes, en 2010 sera une année sainte, avec des indulgences pour les pèlerins qui s'engagent dans ce chemin. Et là, les chiffres prennent des proportions encore plus extraordinaires. Alors, qu'est-ce qui part dans ce chemin? Eh bien, ce sont des hommes et des femmes, à peu près à 50%. C'est à la fois l'étudiant qui veut faire une pause avant de s'engager chemin.
Oui.
C'est l'actif qui a besoin d'une pause ou d'une intériorité, qui veut faire une sorte d'arrêt dans sa vie. Ou le retraité qui est confronté à la page blanche et qui veut donner un sens à sa nouvelle vie.
Ce sont quand même des démarches spirituelles.
Alors, c'est tout à fait un chemin spirituel au sens large du terme. Il peut être religieux pour certains ou tout simplement spirituel, existentiel pour la plupart des pèlerins. Ces pèlerins viennent du monde entier. Alors, ils viennent évidemment essentiellement de l'Europe, de l'Espagne en premier, mais de tous les pays d'Europe, Europe de l'Ouest, du Nord, de l'Est. Et aussi, on en voit qui viennent d'Amérique du Nord, beaucoup du Québec, du Japon, de la Corée, de l'Australie ou de la Nouvelle-Zélande. Donc, c'est tout à fait... En Amérique du Sud, on a aussi le Brésil qui est très présent. Donc, de partout. Alors, les motivations, évidemment, ont changé par rapport à l'époque médiévale. Ce n'est plus l'attrait des reliques en premier. Il y a cependant, évidemment, des préoccupations ou des motivations religieuses pour
certains.
Oui, bien sûr. Mais il y a tous ces attraits sportifs, culturels, surtout ce désir, au fond, de faire une expérience de liberté, d'authenticité.
Cette recherche de soi-même que l'on fait aujourd'hui correspond quand même bien à l'idée du pèlerinage. Ce n'est pas le pèlerinage dans sa lettre, mais c'est au moins le pèlerinage dans son idée. Avez-vous un mot pour nous montrer ça?
Oui, puisqu'on voit que le pèlerin donc recherche, il est disponible pour lui-même, pour les autres. Alors, quel est le rapport avec les pèlerins du Moyen-Âge et celui d'aujourd'hui? Si plus de 1000 ans nous séparent des premiers pèlerins, si l'allure du marcheur ou du pèlerin d'aujourd'hui, ainsi que ses motivations, sont bien différentes de celles du pèlerin médiéval, il y a des points communs entre eux. Le départ de chez soi, de son environnement, de la prise de risque de l'inconfort, de la solitude, du questionnement, la peur de ne pas parvenir au bout du chemin, la joie de l'arrivée et une expérience de liberté. Aujourd'hui, à la suite d'hier, riches ou pauvres, croyants ou agnostiques, se retrouvent sur ce chemin mythique. À l'arrivée, ils n'ont pas trouvé toutes les réponses à leurs questions, mais leur regard a changé, leur cœur est plein d'allégresse, leur vie prend une plus grande densité. Le pèlerinage continue d'une autre manière. Et comme le chante le poète, l'homme est toujours en marche dans sa quête d'absolu vers l'inaccessible étoile.
Merci Françoise, merci beaucoup de ce témoignage, de cette description de l'histoire du chemin de Saint-Jacques. Et nous nous disons à la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous recevrons un nouveau témoin du pèlerinage de Saint-Jacques de Compostelle.
Tous les matins, nous nous prenons le chemin. Tous les matins, nous allons plus loin. Jour après jour, la route nous appelle. C'est la voie de Compostelle. Oh.